Bonjour à tous les auditeurs de Radio MDM. Dans l'émission, leur histoire est aussi notre histoire. Dans l'émission précédente, je vous ai parlé de la fondation de Mont-de-Marsan en 1141 par le vicomte de Marsan, Pierre. Aujourd'hui, nous allons évoquer la période qui va suivre son décès après 1163, donc le dernier quart du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle en Marsan. Je vais vous parler indirectement du Marsan, car il est lié aux différents conflits qui vont se produire entre les vicomtés de Gascogne. Le contexte politique de cette période de la fin du XIIe siècle est en effet très complexe, et il va générer des affrontements entre ces comtés et ces vicomtés gascognes qui vont se poursuivre jusqu'au XIIIe siècle. Et ils entraînent notamment les vicomtes de Marsan dans ces remous. Alors nous avons quatre vicomtés ou comtés qui sont concernés par les remous qui vont se produire. D'abord la vicomté de Marsan, dont je vous rappelle que depuis 1130 environ, elle est unie au comté de Bigorre lorsque Pierre de Marsan, vicomte, a épousé la comtesse de Bigorre, Béatrix. Nous avons ensuite la vicomté de Béarn et enfin le comté de Comminges qui est voisin de la Bigorre. Alors il se trouve que à cette époque, Béarn et Bigorre sont rentrés sous l'influence du roi d'Aragon, Alphonse II, qui est aussi comte de Barcelone. C'est un souverain très ambitieux et il lorgne vraiment vers le sud des Pyrénées. La Bigorre notamment est sous son influence depuis l'hommage en 1122 du comte de Bigorre au roi d'Aragon Alphonse Ier le Batailleur, qui était le père d'Alphonse II. Et en Béarn, eh bien, il est pratiquement implanté depuis 1142, car il est tuteur du jeune vicomte de Béarn, Gaston, qui lui rend donc hommage. Donc cette proximité pourrait constituer une menace pour la Gascogne. Alors, il faut garder ça dans un coin de votre mémoire, car nous allons continuer ensuite avec la descendance de Pierre de Marsan. Pierre de Marsan et Béatrix de Bigorre, qui est son épouse, ont eu deux enfants. Une fille, Roubéa, ce qui signifie rose blanche, très joli prénom. Elle est née vers 1131 et elle épouse le vicomte Bohémond de Fezensac. Ils ont également un fils qui est né, semble-t-il, un an avant Roubéa. Ce fils s'appelle Centule, en l'honneur sans doute du père de Béatrix. Et il devient vicomte de Marsan et comte de Bigorre en 1163, à la mort de Pierre. Nous n'avons malheureusement aucun acte passé par Centule durant son gouvernement du Marsan. On sait seulement qu'il a accordé aux habitants de Bagnères de Bigorre, en Bigorre donc, une charte de coutumes avantageuse pour la communauté de ce lieu et qui lui permet notamment de s'administrer elle-même politiquement. Mais pour le Marsan, malheureusement, nous ne savons rien. Et c'est bien dommage. Alors, vers 1155, Centule de Marsan-Bigorre avait épousé la veuve du vicomte Pierre de Gabaret, dont le nom est Mathel des Beaux. C'est une alliance importante car Mathel est la cousine de Raymond Béranger, vicomte de Barcelone et, attention, prince d'Aragon. Nous voilà de nouveau avec l'Aragon. Mathel apporte donc à Centule en dot le Val d'Aran, Val d'Aran qui est situé quand même en Comminges, mais qui à cette époque dépendait du roi d'Aragon. Cette union va accentuer l'influence de l'Aragon sur une partie de la Gascogne, dont le Béarn. Mais bon, la donation en dot du Val d'Aran n'est que provisoire, car le roi d'Aragon va la récupérer quelques années plus tard. Or, historiquement parlant, le Val d'Aran avait toujours fait partie du Comminges, ce qui va mécontenter sérieusement les comtes de Comminges et de Bigorre d'ailleurs. Les vicomtes de Béarn, en outre, prêtent hommage pour leur vicomté au roi d'Aragon et non pas au duc d'Aquitaine, ce qui peut être source de conflit, car les précédents vicomtes de Béarn, eux, étaient effectivement des vassaux du duc d'Aquitaine ou du comte de Gascogne. Le duc d'Aquitaine et de Gascogne est le roi d'Angleterre. Je vous le rappelle, Henri de Plantagenet, qui a épousé en 1142 Aliénor d'Aquitaine, duchesse. Ensemble, ils ont eu cinq fils. Et en 1175, le roi Henri confie le duché d'Aquitaine à son fils Richard. C'est le fameux Richard Cœur de Lion, vous savez, de la série télévisée qu'on voyait sur nos écrans il y a une trentaine d'années. Il lui donne donc pour mission de pacifier l'Aquitaine, dont les barons sont en révolte contre le roi-duc depuis plusieurs années. Et en 1176, Richard saisit l'occasion d'affirmer la présence ducale en Gascogne. Il mène une expédition donc contre plusieurs seigneurs gascons qui avaient formé une fédération leur permettant de contrôler les cols basques où passaient les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Par ce contrôle, évidemment, ils percevaient des revenus qui étaient quand même relativement lucratifs. Alors cette fédération comprenait le vicomte de Marsan, Centule, son gendre Pierre, vicomte de Dax, ainsi que le vicomte de Bayonne et peut-être le vicomte d'Or. Alors, on ne connaît pas les détails de l'affaire, hein, l'affrontement entre Richard Cœur de Lion et ses vicomtes gascons. On ne sait que ce qu'en disent les chroniqueurs anglais qui ne sont pas forcément favorables aux gascons. Donc, il est possible qu'ils aient caché quelques éléments de l'affaire. Il est possible, par exemple, qu'une décision de Richard ait motivé la révolte des trois vicomtes contre lui. Malheureusement, nous n'avons aucune information à ce sujet. Donc, Centulle de Marsan et son gendre Pierre se réfugient dans la ville de Dax, la ville de Pierre, où ils sont assiégés durant 10 jours par les troupes de Richard. Ils sont finalement obligés de se rendre, mais dès que Richard s'éloigne, les vicomtes commencent à se livrer à des actes d'hostilité envers les officiers de celui qui était quand même leur suzerain. Richard avait laissé en place donc des officiers pour le représenter et ça s'est passé très mal. Richard a été averti, il est revenu sur ses pas, il a assiégé de nouveau la ville de Dax. Voici que le vicomte Pierre est tué durant le siège. Qu'ont fait les habitants de Dax ? Eh bien, ils ont tout simplement livré Centulle, vicomte de Marsan et comte de Bigorre. Ils l'ont livré à Richard, qui le fait évidemment jeter en prison. Et seule l'intervention du roi d'Aragon, Alphonse II, a permis sa libération. Mais Centulle a été obligé de faire sa soumission à Richard, de payer une indemnité lourde et de lui céder un de ses châteaux. Alors, évidemment, cet épisode, qui est un des épisodes d'un certain nombre de révoltes quand même des barons gascons contre l'administration anglaise ou ses représentants, cet épisode montre qu'il y avait très probablement une distance quand même importante entre les représentants du nouveau duc, roi-duc, du nouveau duc d'Aquitaine, qui était le roi d'Angleterre, et les habitudes précédente qui était celle du duché d'Aquitaine. Revenons à Centulle, que va devenir sa descendance ? Centulle et Mattel des Beaux ont eu un seul enfant, une fille, Stéphanie, qu'on appelle aussi Béatrix IV, qui est donc comtesse de Bigorre et vicomtesse de Marsan à la mort de ses parents. Stéphanie avait dans un premier temps épousé le vicomte de Dax, Pierre. Mais, bon, comme nous avons vu que ce pauvre vicomte de Dax a été tué devant sa ville, elle s'est retrouvée veuve sans enfant. Alors ensuite, eh bien, ses parents la marient, pour des raisons diplomatiques, au comte de Comminges, Bernard IV. Je vous rappelle qu'à cette époque, malheureusement, les femmes ne sont que tout simplement des pions dans les alliances. Donc on les marie au gré de la volonté d'un seigneur ou d'un autre afin de renforcer son pouvoir essentiellement. Centulle et Mattel ont eu peut-être la vue un petit peu courte parce que ce comte de Comminges Bernard IV, qui est également le neveu de Raymond V, comte de Toulouse, c'est un personnage très retors. Un personnage retors, un personnage dangereux. Nous allons le voir. Dès qu'il a reçu le titre de comte de Bigorre, eh bien, il va tout de suite répudier son épouse et il va tenter de garder le comté pour lui au détriment de la fille qu'ils ont eue ensemble, Pétronille. Alors, heureusement, là, le roi d'Aragon était là. Car le roi d'Aragon est le tuteur de Pétronille de Comminges et il va la protéger en tant que tuteur. En 1192, il la fiance donc au vicomte de Béarn Gaston Moncade et donne à ce dernier le comté de Bigorre, sauf le Val d'Aran qu'il reprend à ce moment-là. L'union a donc eu lieu le 1er juin 1195 à Sainte-Marie-de-Muret. Durant ces événements, il semble bien que Stéphanie et surtout ses journées en Bigorre. Et nous ne savons absolument rien de son action en Marsan, ni d'ailleurs de celle de sa fille Pétronille. Celle-ci n'a pas eu d'enfant de son mariage avec Gaston Moncade, qui est mort en 1215. En revanche, ces divers mariages compliquent la situation des vicomtés et vont être à l'origine des contestations permanentes durant le XIIIe siècle à propos du comté de Comminges. Elle a donc eu deux filles de son troisième mariage et une autre fille de son dernier mariage, une fille qui s'appelle Matt. À la fin de sa vie, par testament du 3 novembre 1251, Pétronille de Bigorre va instituer comme héritier du comté de Bigorre son petit-fils Esquivade de Chabanais, qui était le fils de sa fille aînée Alix, qui avait été mariée à Jourdain de Chabanais. Mais elle va donner la vicomté de Marsan à Mathe de Mastas, donc la fille qu'elle a eue de son dernier mariage. Et cette Mathe de Mastas va, en 1230, épouser le vicomte de Béarn, Gaston VII Moncade. Et nous allons donc parler de cette union, de toutes les conséquences qu'elle a eues ensuite sur l'avenir du Marsan, qui est bien dans l'affrontement entre ces différents territoires, ces différents comtés et vicomtés, qui vont se quereller pendant la fin du XIIe siècle, et encore un petit peu d'ailleurs au XIIIe siècle. Pour rester dans le contexte de cette bataille entre seigneurs, voici une chanson de Luc Arbogast, une chanson réinterprétée, revisitée. Il s'agit du générique de la série Game of Thrones. Partie de l'émission Leur histoire est aussi notre histoire, j'ai évoqué le contexte général qui a précédé la fondation de Mont-de-Marsan. Alors maintenant, nous allons entrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire savoir comment la ville de Mont-de-Marsan a été fondée. Alors, la première difficulté vient du fait que nous n'avons pas le texte original de la fondation. Il y en a eu un, bien entendu. Mais nous avons quatre textes, dont l'un se trouve dans ce qu'on appelle le livre rouge de l'évêché d'Aire, qui date du début du XIVe siècle. C'est ce qui nous permet de comprendre les circonstances dans lesquelles cette fondation a été effectuée. Alors, vous avez bien compris que le vicomte de Marsan, qui est quand même le seigneur d'une étendue de terre extrêmement importante, avait pratiquement sous son autorité directe les habitants de Saint-Médard, les habitants de Saint-Jean-d'Oute, les habitants de Saint-Martin-de-Nonnerre et une partie quand même des habitants de Saint-Pierre-du-Mont, mais pas les habitants qui dépendaient de l'abbé de Saint-Sever à Saint-Pierre. Car rappelez-vous, en 988, lorsque le duc de Gascogne, Guillaume Sanche, va fonder l'abbaye de Saint-Sever, il va lui faire des donations très importantes et en particulier lui donner un certain nombre d'églises, dont les églises de Saint-Pierre Saint-Pierre de Roca et Saint-Genès-des-Vallées, qui sont en fait Saint-Pierre-du-Mont et Saint-Genès, petite paroisse qui a disparu ensuite au cours du XVIIe, XVIIIe siècle. Il n'était donc absolument pas possible de fonder une ville au confluent si l'on voulait attirer des paroissiens de Saint-Pierre et de Saint-Genès. Ce n'était pas possible sans demander l'autorisation à l'abbé de Saint-Sevé. En effet, l'abbé de Saint-Sevé était le seigneur d'une partie de Saint-Pierre-du-Mont. Le texte de fondation nous dit que le vicomte s'est déplacé pour aller rencontrer les habitants de Saint-Pierre et de Saint-Genès et il dit qu'il leur demande de venir peupler la future fondation en leur présentant un certain nombre d'avantages qu'ils en retireraient. On peut penser notamment que parmi les avantages, il y a eu sans doute la liberté. Certains de ces paysans n'étaient peut-être pas tout à fait aussi libres les uns que les autres. Il y avait probablement différentes catégories de population et donc certains probablement qui avaient un statut social plus important que d'autres, notamment ce qu'on appelle les fermiers. Alors dans le texte, donc le vicomte de Marsan, en allant rencontrer les paroissiens, leur indique de façon très claire qu'il souhaite fonder une ville dans le castrum, c'est-à-dire dans le château qu'il possède au confluent, et il leur demande s'ils veulent venir le peupler en échange de leur venue. Ils obtiendraient un certain nombre d'avantages. Alors évidemment, la réponse de l'ensemble de ces paroissiens ne s'est pas fait attendre. Ils lui ont dit qu'ils avaient un seigneur qui était l'abbé de Saint-Sevé. Et seul l'abbé de Saint-Sevé pouvait donner l'autorisation de suivre le vicomte, car il est évident que le vicomte et l'abbé de Saint-Sevé n'allaient pas en venir aux mains et n'allaient pas se faire la guerre, évidemment, pour cette fondation. Le vicomte de Marsan n'a pas fait preuve de force. Au contraire, il a fait preuve de beaucoup de patience, puisque, comme je l'avais expliqué, pendant 8 ans, les démarches se sont étirées avec plusieurs abbés. D'abord un abbé du nom de Robert, puis ensuite un second qui s'appelle Arnaud II, puis Raymond, et enfin le dernier avec lequel se conclut l'affaire, c'est l'abbé Raymond Sanche. On peut donc imaginer effectivement les hésitations de l'abbé. Les différents abbés qui se sont succédés dans ces négociations ont certainement tous beaucoup hésité. Car il est évident que ce départ d'une partie de la population de leur paroisse vers le confluent ne pouvait que les priver d'un certain nombre de revenus, mais aussi les priver d'un pouvoir qu'ils exerçaient sur ses habitants. Alors, comme nous ne connaissons évidemment pas le contenu de ces négociations, ça c'est de toute façon totalement impossible. Bon, on peut penser que peut-être le vicomte aussi a pu diminuer ses prétentions et accepter les exigences de l'abbé. Ce n'est pas impossible. Donc, dans le texte du Livre rouge du XIVe siècle, comme dans un autre texte, on voit qu'il y a très clairement deux sortes d'habitants. Il y a les habitants de Saint-Genès qui sont dans la propriété de l'abbé et les seconds qui vivent dans un village, le castrum de Saint-Pierre, c'est-à-dire payent un cens qui est le signe de leur liberté à l'abbé. Alors, qu'est-ce que ça peut être que ce castrum? Eh bien, ce castrum, c'est tout simplement un petit village fortifié, c'est un village fortifié, non pas entouré d'un rempart de pierre, mais très probablement de fossés, de palissades, qui se trouvaient sur le sommet du plateau, peut-être à côté de l'église de Saint-Pierre, dont on voit bien qu'elle est en position dominante. Alors, que demande lui l'abbé de Saint-Sevé? Il faut savoir que l'abbé de Saint-Sevé recevait des habitants du castrum de Saint-Pierre chaque année un cens de 6 deniers pour leur maison et différents droits paroissiaux, différents droits qu'il va perdre. Bon, par exemple, le droit de baptême, la dîme, évidemment, qu'il n'a absolument pas l'intention d'abandonner. Et donc, si les paroissiens s'en vont pour peupler la nouvelle ville au confluent, eh bien, il va perdre l'ensemble de ce revenu. Il a également, en tant que seigneur banal, c'est-à-dire un seigneur qui exerce le pouvoir de commandement, il dispose d'un droit de justice qui peut être d'ailleurs lucratif. Et puis, il y a encore d'autres biens dont la nature n'est absolument pas précisée, mais qui sont peut-être des taxes sur les échanges, sur le commerce, sur l'utilisation de moulins ou du four, par exemple, ce qui est tout à fait dans les usages de l'époque. Alors, que s'est-il passé finalement en 1141? Finalement, l'abbé Ramon Sanche accepte de conclure cet accord avec le vicomte de Marsan aux conditions suivantes. Tout d'abord, l'abbé accepte que tous ses paroissiens aillent dans la ville nouvelle que veut bâtir le vicomte, mais il demande à conserver sur les habitants de Saint-Genès tous les droits qu'il avait précédemment sur eux. Par exemple, exemple le droit de justice, et même si ces hommes habitaient à l'intérieur de Mont-de-Marsan. D'autre part, le vicomte lui accorde à l'abbé une église et une maison à l'intérieur de la nouvelle ville, exempte de toute redevance. Et c'est cette donation qui est à l'origine de la construction de l'église de Sainte-Marie-Madeleine et du prieuré montois. Donc, il faut supposer aussi que l'abbé nommait le curé de la paroisse. Alors, le vicomte avait fait un certain nombre de promesses aux habitants. Il a promis d'abord sa protection, ce qui est tout à fait normal, car c'est aussi son devoir que de protéger les hommes qui dépendent de lui. Et puis, il a promis des franchises. Ces franchises seront concrétisées par la charte de coutume, qui va d'ailleurs être accordée par le vicomte Pierre lorsque la ville est fondée. Alors, on ne sait pas exactement en quelle année, entre 1141 et 1163, qui est le moment de son décès, eh bien, il a accordé cette charte. Nous n'avons pas la charte d'origine, mais en revanche, dans un document du XIIIe siècle accordé par la vicomtesse Constance, qui est sa descendante, elle évoque la charte de coutume que son ancêtre Pierre avait accordée aux habitants de Mont-de-Marsan. Le vicomte s'engage également à ne pas exercer lui-même sa justice et à ne pas s'en prendre ni au bien ni à la maison de l'abbé de Saint-Sevé. Ensuite, eh bien, le vicomte, puis tous les futurs habitants de la ville, prêtent serment de respecter ces clauses sur l'autel de Saint-Pierre, ce qui confirme bien l'origine de Mont-de-Marsan, une ville fondée au sein de la paroisse de Saint-Pierre-du-Mont. Et cet accord, c'est un accord qui sera respecté jusqu'à la Révolution, puisque jusqu'à la Révolution, les maires de Mont-de-Marsan prêteront le serment suivant sur l'autel de Saint-Pierre-du-Mont. « Par Dieu et par ce saint Monseigneur Saint-Pierre, je jure, bon et loyal à la ville serai. Les biens pour elle je procurerai et les maux j'éviterai. Les choses douteuses, je ne les ferai qu'avec conseil. Justice aux petits comme aux grands je rendrai, comme ont fait les autres maires et mieux si je sais. Ainsi m'aide Dieu et Monseigneur Saint-Pierre. » À partir de là, donc, la ville est fondée et pendant environ presque un siècle quand même, nous ne savons absolument rien de ce qui a pu se passer à l'intérieur de la ville. Nous ne connaissons pas les actions que les différents vicomtes ou vicomtesses ont pu mener à l'intérieur de cette ville pour l'agrandir, nous ne savons rien. Seule l'archéologie et les travaux de recherche permettent d'avoir une petite idée en tout cas sur la façon dont la ville a évolué et nous en reparlerons. En revanche, cet accord entre l'abbé de Saint-Pierre-du-Mont et le vicomte de Marsan a eu quand même une conséquence assez curieuse. C'est que l'évêque d'Aire, du nom de Bonhomme, s'est opposé à cet accord. Car depuis le milieu du XIe siècle, les curés des paroisses nouvellement créées devaient relever de l'évêque pour leur nomination. Or là, dans l'accord entre le vicomte et l'abbé, eh bien, le curé de Mont-de-Marsan relève de l'abbé de Saint-Sevé. Alors évidemment, là, c'était presque un crime de lèse-majesté. Ce qui fait que il semble que la contestation entre l'évêque et l'abbé se soit développée d'une manière assez importante, puisque plus tard, un historien du XVIIe siècle, l'abbé Montlezin, parle d'une inimitié déclarée qui fut enfin suivie d'une guerre ouverte, sans que, évidemment, on connaisse les péripéties. Alors que pouvait être cette guerre ? Pas forcément une guerre avec des armes, mais en revanche, certainement des mesures de rétorsion de part et d'autre, des refus de donner les différents sacrements, par exemple, et toutes sortes d'ennuis qu'on pouvait faire, effectivement, dans ces conditions-là. Finalement, eh bien, les deux parties ont fini par porter leurs différends devant l'archevêque d'Auch et les évêques de Gascogne. Et donc l'ensemble de ces grands prélats se sont réunis à Perquis en 1141 d'abord, puis ensuite en synode à Nogaro. Ce qui caractérise la violence quand même de cet affrontement, c'est qu'il y a même eu des faux témoignages de prêtres contre l'abbé de Saint-Sevé. Finalement, bon, après un certain temps, l'affaire s'est terminée, eh bien, par le don d'une somme d'argent importante, par l'abbé de Saint-Sevé à l'évêque et à l'église d'Aire, qui ont de leur côté abandonné toute prétention sur l'église nouvelle. Et c'est ainsi que la fondation de Mont-de-Marsan a été réalisée, même si elle a donné lieu à une contestation, effectivement, à un moment donné. Finalement, eh bien, cet accord s'est conclu. La ville s'est développée petit à petit. Pour la petite pause musicale et la fin de cette émission, je vous propose une chanson des années 80, Le Seigneur des Beaux d'Angelo Branduardi, qui est bien dans la note.
dans son château, le seigneur des pots prend la pluie au visage. Dans son château, le seigneur des pots prend la pluie au visage. Passe 10 000 sentinelles en criant sur la terre. Le chant de la nuit des lumières, la mort des murs de pierre. Dans son château, le seigneur des pots prend la pluie au visage. Passe les souvenirs de glace des chiens et de leur chasse. Sur le lit brisé de la dame, descendre et plus de flammes. Que les rumeurs muraillent pâles dans ces couleurs qui pétillent. Que les rumeurs muraillent grises dans ton château, toi le seigneur des pots. Étant le vent, la tempête et l'eau, il a perdu courage. Perdu les oiseaux de la mer, l'ombre de ses frontières. Pendu drapeau glorieux et sale, au vent qui passe. Feu et rumeur, muraille pâle, dans ses couleurs qui pétillent. Feu et rumeur, muraille grise, dans ton château, toi le seigneur des pots. Dans son château, le seigneur des pots prend la pluie au visage. Tcha-ding dan di dai di din di, tcha-ding dan di dai da da, tcha-ding dan di dai di din di, tcha-ding dan di dai da da.